Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 9 juin 1815, la signature des traités de Vienne. Après la signature du traité de Paris du 30 mai 1814, les vainqueurs de Napoléon Ier se retrouvent à Vienne pour régler le sort des territoires abandonnés par l'empereur. Avant même la venue des plénipotentiaires des puissances européennes, certaines décisions sont prises, comme l'union de la Belgique et de la Hollande en un royaume unique, ou le partage de l'Italie du Nord entre l'Autriche et le Piémont-Sardaigne. Mais la question de la Pologne et de la Saxe, anciennes alliées des Français, divise les négociateurs. Les appétits s'aiguisent. L'envoyé de Louis XVIII, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Affaires étrangères, tire profit de ces rivalités. Il arrive à Vienne le 23 septembre 1814 et loge à l'hôtel Kaunitz. Dans cette fiévreuse atmosphère viennoise, traversée d'intrigues politiques ou mondaines, il est d'emblée à son aise. Par les traités conclus à l'automne 1813 ou au printemps 1814, les souverains russes, prussiens et autrichiens s'accordent sur le partage de l'Europe. Mais depuis, les ambitions se sont affirmées. Le tsar, Alexandre Ier, est bien résolu à réaliser le rêve qu'il caresse depuis 10 ans, la reconstitution sous son sceptre de tout le royaume de Pologne, en retenant l'ancienne portion prussienne occupée par ses troupes et en obtenant de l'Autriche le territoire autrefois reçu. Aussi pousse-t-il les Prussiens en Allemagne et les Autrichiens dans la péninsule italienne. La Prusse souhaite reprendre sa part polonaise et s'arrondir de toute la Saxe. L'Autriche entend remettre la main sur l'Italie sans pour autant céder la moindre parcelle de sa Pologne au tsar et en garantissant celle détenue par la Prusse. Pour la diplomatie autrichienne, une Russie portée jusqu'à l'Oder serait beaucoup trop puissante pour le maintien de l'équilibre européen. L'Angleterre conçoit les mêmes craintes. Elle paraît surtout préoccupée à brider à tout jamais la France. Constituer un royaume des Pays-Bas, formé par la réunion de la Belgique et de la Hollande, et établir sur le Rhin une forte puissance allemande lui suffit. Contrairement à l'Autriche, elle ne voit pas d'inconvénient à l'accroissement de la Prusse, à condition qu'elle se dresse contre la France. Le conflit est donc réel entre les puissances victorieuses. Pour tenter de le régler, elle retarde l'ouverture du Congrès de Vienne. La Russie et la Prusse s'accordent en secret. La Prusse cède sa part de Pologne au tsar qui lui accorde la Saxe tout entière. L'Autriche et l'Angleterre refusent l'attribution de la Pologne aux Russes, mais s'opposent quant au sort de la Saxe. Talleyrand est redouté. Certains souhaitent l'écarter de la préparation du Congrès. Mais comment marginaliser une puissance telle que la France, même diminuée ? Elle est donc admise aux rencontres préparatoires au même titre que l'Espagne. Les 4 deviennent ainsi les 6. Le 30 septembre 1814, ils se retrouvent pour la première fois. Le diable boiteux s'exprime en ces termes. « Je suis peut-être le seul prince qui ne demande rien. De grands égards, c'est tout ce que je veux pour la France. Je ne veux rien, je vous le répète, et je vous apporte immensément. La présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose tout l'ordre social. Le premier besoin de l'Europe est de bannir à jamais l'opinion qu'on peut acquérir des droits par la seule conquête et de faire revivre le principe sacré de la légitimité d'où découle l'ordre et la stabilité. Le 1er novembre 1814, le Congrès de Vienne ouvre sa session officielle. Il se divise en 3 comités pour les affaires italiennes, allemandes et helvétiques. Les questions relatives à l'Italie portent surtout sur Gênes, Parme et Naples. La France appuie la demande du roi de Sardaigne, beau-frère de Louis XVIII, qui souhaite recevoir la Ligurie en compensation de la Savoie perdue. Cette requête est agréée. Parme est assurée à Marie-Louise et après elle à son fils, l'Aiglon. L'Autriche souhaite maintenir sur son trône napolitain Joachim Murat, qui a trahi Napoléon. Talleyrand, jadis si intimement lié avec Caroline Bonaparte, réclame la déchéance de son époux, considéré comme un usurpateur, et la restitution de Naples aux Bourbons, indignement dépouillé. « Il faut chasser Murat avant tout, écrit-il, car il ne faut d'illégitimité dans aucun coin de l'Europe. » Il demande également que la souveraineté sur l'île d'Elbe soit retirée à l'empereur. Il suggère de le renvoyer aux Açores ou au-delà. Le tsar brouille les cartes. Le 8 novembre 1814, le prince Repnine Volkonski, qui occupe la Saxe, prie le roi Frédéric Guillaume d'y établir une administration prussienne. À Varsovie, le grand-duc Constantin annonce aux Polonais qu'ils sont désormais sous le sceptre des Romanov. Le 3 janvier 1815, au terme de longues négociations et la constitution d'une bien singulière alliance, un traité est signé par les représentants de la France, de l'Autriche et de l'Angleterre. Talleyrand en informe immédiatement Louis XVIII dans une lettre qui n'est qu'un long cri de triomphe. « Maintenant, sire, la coalition est dissoute, et elle l'est pour toujours. Non seulement la France n'est plus isolée en Europe, mais votre majesté a déjà un système fédératif tel que 50 ans de négociations ne semblaient pas pouvoir parvenir à lui donner. » Certains détails sont encore à préciser. L'Autriche et la France composent. Parme est cédée à Marie-Louise à condition qu'elle renonce aux droits que le traité de Fontainebleau confère à son fils. Elle accepte sans hésiter cette solution. À sa mort, Parme reviendra aux Bourbons. Reste encore la situation de Joachim Murat. Louis XVIII s'oppose au maintien même provisoire de cet aventurier. Il envisage de lui opposer une armée française. En consacrant la formation du royaume des Pays-Bas, en établissant la Prusse sur le Rhin, en doublant la superficie du royaume de Sardaigne et plus généralement en fortifiant de manière souvent démesurée certains États européens, les traités de Vienne définitivement signés le 9 juin 1815 aggrave la situation que le traité de Paris fait à la France. Pourtant, en négociant avec finesse, Talleyrand sauve l'essentiel en réintégrant la France dans le concert des nations. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire. Un jour, trois livres, nous écoutons Michel Polnareff, Lettre à France, un titre de 1978 de l'album Coucou me revoilou.
suis à des années de toi, c'est ça être là-bas. La différence, c'est ce silence parfois au fond.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire préparée par Emmanuel, que j'ai le plaisir de vous présenter. Un jour, trois livres, à commencer aujourd'hui par La rivière des ténèbres de Buddy Levy, c'est publié aux éditions Paulsen. Nous voici conter l'extraordinaire aventure de deux conquistadors du XVIe siècle, découvreurs d'un monde inconnu dont l'un descendit pour la première fois l'Amazone malgré lui, affrontant dangers et mystères au péril de sa vie. En 1541, Gonzalo Pizarro et son lieutenant Francesco de Orellana partent de Quito à la recherche du pays de la cannelle et du mythique El Dorado. À la tête d'une expédition de 200 hommes, certains vont arriver exsangues et les pieds nus de l'autre côté des Andes. Perdus dans un labyrinthe marécageux, voyant leur nombre diminuer chaque jour, les deux conquistadors prennent la décision fatidique de se séparer. Orellana et 57 soldats descendront un peu plus bas sur la rivière Napo à la recherche de vivres, tandis que les autres les attendront. Pas un instant, Orellana ne se doute que cette expédition de ravitaillement se transformera en exploration d'un continent. Sur son bateau de fortune, il croisera bientôt le cours du mystérieux Maranon, un fleuve aux dimensions gigantesques sur les eaux duquel il rejoindra l'océan. L'auteur nous raconte ainsi l'aventure extraordinaire de ces hommes qui descendirent pour la première fois l'Amazone au péril de leur vie, confrontés aux dangers mortels et aux mystères d'un monde inconnu. La rivière des ténèbres de Buddy Levy s'est publiée aux éditions Paulsen. Archipel de Inger Maria Malke aux éditions Métaillé. Depuis l'archipel des Canaries, ce roman raconte la vie de trois familles de classes sociales différentes, profondément marquées par l'histoire de l'Espagne. Par une banale journée d'été 2015 à la Laguna Rosa, et de retour dans la résidence des Bernadotte qui a perdu sa magnificence d'antan, Rosa est en quête de ses origines. Elle va rejoindre Julio, son grand-père paternel, portier dans une maison de retraite de la ville. Courrier pendant la guerre civile, emprisonné par les fascistes, il a réussi à s'enfuir et est revenu sur l'île après la tempête franquiste. En s'appuyant sur l'histoire familiale, bourgeoise du côté des Bernadotte et prolétaire du côté maternel, la romancière remonte le cours de l'histoire du XXe siècle. Et nous allons remonter dans le temps, génération après génération, et comprendre ainsi les origines des problèmes contemporains. Archipel, c'est signé Inger Maria Malke, c'est publié aux éditions Métaillé. Et pour finir cette chronique, La gouvernante royale de Wendy Holden aux éditions Albin Michel. Dans le Londres d'avant-guerre, deux petites filles se promènent avec leur gouvernante. L'une d'elles accédera bientôt au trône. Vous les avez reconnues, Elisabeth et Margaret. Elles adorent Marion qui leur fait découvrir un monde inconnu. La piscine, le métro, les grands magasins. Entre elles se tisse un lien d'affection unique. Marion, qui veille sur les fillettes comme une mère, est leur confidente privilégiée, une vraie mère de substitution, au risque de sacrifier sa propre existence. Ce roman est inspiré de la vie de Marion Crawford, la gouvernante royale. On y voit grandir sous les yeux de Marion, Margaret et Elisabeth. On y voit de l'intérieur les drames et les joies des Windsor, de l'abdication d'Édouard VIII, au couronnement d'Élisabeth II. On y découvre enfin le destin empli d'abnégation d'une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale et dont la vie personnelle en sortira quelque peu brisée. La gouvernante royale, c'est signé Wendy Holden et c'est publié aux éditions Albin Michel. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique littéraire. Merci à Lucas qui a réalisé cette émission Historama. Et c'est en musique que nous allons nous quitter avec toujours Michel Polnareff. Nous écoutons le Bal des Lazes, extrait de l'album éponyme. C'était en 1968.
Je serai pendu demain matin, ma vie n'était pas faite pour les châteaux. Tout est arrivé ce soir de juin, on donnait une fête dans le château, de la. Je serai pendu demain au jour. dommage pour la fille de ce château, car je crois qu'elle aime bien l'amour que l'on faisait tranquille loin du château, dans le château de Laz, pour les 20 ans de Jane. Lady de Laz avait reçu la reine, moi le fou que l'on toise, moi je crevais de haine, caché dans le jardin, moi je serrais des poings, je regardais danser Jane et son fiancé.
Oh,